L'apparition de Baby. Baby apparaît en vrai derrière le bar ou dans la salle. Je ne sais pas très bien parce que je l'ai perdu aussitôt. Je beugle à l'oreille de Sébastien que j'ai trouvé Baby. Le cabaret est bondé. Il y a plus de filles que de garçons. Je cherche partout, dans une espèce de panique, une barmaid avec les cheveux tirés en queue de cheval et un nœud papillon noir qu'elle porte à même le cou. Uniforme de toutes les barmaids du cabaret qui doivent représenter au moins un tiers de la population du club. Je fouille longtemps dans ce bain clignotant pour retrouver un visage que je ne suis même plus certain d'avoir vu. Je la reconnais de justesse alors qu'elle dépose un grand plateau de verre vide sur le bar à juste deux tabourets de moi. Je m'avance et elle me sourit parce qu'elle pense que je vais lui commander quelque chose à boire. À la place, je lui raconte, nous ne communiquerons jamais que dans un anglais assez pauvre, que j'ai noté le numéro d'une cabine téléphonique dans un village qui s'appelle Baby et que je voudrais la photographier pour faire un portrait d'elle avec un tampon encreur qui imprime le numéro de Baby. Tout ça la laisse un peu interdite et même agacée, je pense. Mais elle est vite sauvée par le grand plateau noir qui a déjà fait peau neuve. Un magnum d'absolu de vodka, du jus de pomme, des verres propres à gros cul, un cendrier, des glaçons dans un seau, un ananas en tranche. Tout ça doit bien peser une tonne, mais une fois dans ses mains, ça se met à tintinabuler comme les étagères de la boutique de cristal de Bohème de l'aéroport de Budapest à chaque décollage d'avion. Au cours de la soirée, d'autres réapprovisionnements m'ont permis d'approfondir mes explications, mais tout ce qui sort de ma bouche se condense sur le visage froid de Baby pour ruisseler sur sa robe noire et dégouliner par terre avant que les gens ne marchent dessus. Les seuls événements notables de ces courtes entrevues sont les variations kaléidoscopiques de la composition du grand plateau noir qui sont pour sûr le résultat de commandes passées dans un polonais parfait. Je m'absorbais encore une fois dans le fugitif tintement de la boutique de cristal quand surgit en face de moi une femme à l'air fielleux qui porte deux nœuds papillons l'un au-dessus de l'autre. C'est la chef des barmaids qui voudrait bien savoir ce qui se passe. Une jeune femme, mono-nœud, traduit ses questions en anglais, puis mes réponses, qui sont un peu longues parce que je suis content de trouver enfin quelqu'un dans cette boîte que mon histoire intéresse, alors j'essaie d'expliquer au mieux pour qu'elles comprennent bien et se fassent peut-être les ambassadrices de mon dessin auprès de Baby. Avant la fin de l'histoire, les trois nœuds papillons font place à deux queues de cheval qui se balancent en s'éloignant en une espèce de danse à la con qui fait nié, nié, nié. Encore deux décollages à l'aéroport de Budapest. Je suis dans le couloir, sur le chemin des toilettes, quand deux armoires à glace polonaises me saisissent et m'entraîne à travers une petite porte où il est inscrit « privatni », ça veut dire « privé » en polonais. Nous entrons dans une petite salle avec un petit bar où nous nous accoudons sans rien boire. Les deux armoires se blottissent contre moi pour me parler de tout près. Ils me parlent vraiment dans la figure. Ils m'expliquent qu'il ne faut pas embêter leurs employés parce que sinon ça va mal se terminer. Il y a aussi des spots et une boule à facettes ici, mais tout ça est éteint au profit de néons qui d'ordinaire ne s'allument que pour éclairer les serpillères qui rampent à l'aurore, les frigos qui se remplissent et peut-être, je me dis, les armoires polonaises qui coupent des doigts avec leurs miroirs. Finalement, on parle seulement de me mettre à la porte du club si j'essaie encore de prendre des photos de la barmaid et on me repose comme une chenille sur une feuille près des toilettes. Je retrouve Sébastien au bar qui cherche à commander une vodka pamplemousse en décrivant le fruit parce que le mot lui échappe en anglais. Je sens que mon histoire est à l'eau. Je suis dégrisé, déconfit.
Bonsoir à tous. Grégoire, si tu veux bien venir t'asseoir à côté de moi et prendre un micro. Merci beaucoup pour cette lecture et merci beaucoup d'être venu ce soir pour cette soirée baby. Voilà, prends le micro, ce sera beaucoup plus simple. Alors, on est dans une configuration un petit peu émission de variété, n'est-ce pas ? Nous sommes devant un public extrêmement nombreux et extrêmement attentif. Alors, on a voulu ce soir faire une soirée un petit peu en hommage, en ton hommage, quelque part, pour développer toute cette actualité très dense que tu as en ce moment et que la France entière en fait attend avec avec impatience. Et parmi cette actualité, il y a ce livre.
Sans le savoir forcément, ils l'attendent. Mais...
Et oui, c'est toujours ce qu'on attend. C'est le principe de la surprise. Ouais. Et ce livre-là qui vient de sortir il y a au début de l'année, qui s'appelle Baby, est comment dire le point de départ d'un périple qu'on va suivre un petit peu au cours de cette soirée. Et c'est un livre dont tu viens de lire un extrait.
Ouais.
Et d'où vient en fait cet étrange bouquin autobiographique, parce que tu es artiste plasticien.
Ouais.
Et on s'attend pas vraiment de la part d'un artiste plasticien qui fasse une sorte d'autobiographie, de projet ou de quête amoureuse, comme ce cas de Baby.
C'est une suite d'histoires, de nouvelles qui me sont arrivées. Enfin, c'est parce que tout est vrai, c'est ça qui est... Bon, c'est un point de départ, ça. Tout est vrai. Et... parce que je suis artiste plasticien, mais quelquefois le volume est à ça d'être peut être compliqué, encombrant, décevant ou je sais pas. Et j'ai commencé à un moment invité, par exemple, pour citer cette fois-là, par Ismaël Benani à l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles, à présenter. Des œuvres que j'avais faites, des multiples. Et on s'est rendu compte, enfin, il s'est rendu compte que finalement, il n'était pas forcément obligatoire de montrer les œuvres et qu'il suffisait parfois d'en parler, pour que ce soit une version de l'œuvre, qui n'était pas forcément simplement un commentaire, mais peut-être une version. Et donc, on a évoqué l'idée comme ça de peut-être faire une retranscription de ce genre de conférence. Parce que j'avais commencé aussi à faire des conférences à hors-piste avec Éléonore Saint-Aignan au début sur le film Les Bêtes Sauvages, et puis après sur le voyage en mer. Et donc à chaque fois, ça parle de périples et d'histoires qui sont vraies et qui font partie d'une vie d'artiste, parce qu'il y a des situations, des résidences, etc. Et tout ça, c'est le contexte d'émergence d'œuvres qui existent ou qui sont... qui existeront peut-être, ou qui sont au moins dans une espèce de désir, quoi. Et donc voilà, donc avec Ismaël, on s'était dit que ça serait marrant de faire une édition qui serait une retranscription d'une conférence, comme ça. Donc on a fait des tests, mais ça marchait pas bien de passer de l'oral à l'écrit. Et donc il y a eu plusieurs cas de figure évoqués, peut-être raconter les histoires à des écrivains qui les réécriraient, etc. Mais finalement, le plus simple, c'était de m'y coller un peu moi-même. Et donc voilà, donc c'est devenu une suite de textes sur lesquels j'ai travaillé. Voilà, je sais pas. C'est...
Ouais. Non, mais ça me semble assez clair. On a une sorte de mélange finalement d'un catalogue d'exposition, pour reprendre l'expression de Julie Vessière, et une sorte de... Oui, d'autobiographie, où en fait on voit en direct une sorte de voyage d'un artiste à travers ses propres idées, à travers ses propres projets, mais qui sont aussi souvent des déplacements géographiques dans ce livre, qui est un petit peu à la Tintin aussi. Tu vas d'un lieu à un autre. Il y a un côté toujours exotique qui dédouble le caractère exotique de la vie d'artiste elle-même, qui est quand même assez surprenante en fait.
C'est étalé sur au moins 12 ans, quoi. Donc évidemment,
j'imagine que t'as pas tout raconté.
Non, il y a des trucs que je me suis dit, merde, j'ai oublié, j'ai pas parlé de. J'avais même peur que des endroits où des gens se formalisent de certains oublis, etc.
Et puis c'était aussi, et puis l'occasion de, donc il y avait cette idée de faire cet objet, et puis l'occasion pour le réaliser, ça a été ce DSRA là que j'ai fait sur un tard un petit peu à l'école d'art d'Annecy,
qui est co-productrice du bouquin,
qui est co-éditeur du livre
avec Grandiose,
qui est la maison d'édition que Ismaël Benani et Orphée Grandhomme ont monté. Mm-hmm. Donc ils sont co-éditeurs, et comme le DSRA c'est un diplôme de recherche en art et qu'il fallait trouver un thème de recherche, et puis que la recherche elle est partout là-dedans, elle est aussi présente dans l'histoire de Rudel, Geoffrey Rudel, parce qu'on en parlera tout à l'heure un peu plus, mais qui est assez présent dans le livre et qui est une espèce de recherche de toute une vie, qui a son aboutissement quand il trouve ce qu'il veut, mais, ben, c'est un peu la fin de l'histoire comme ça. Donc ça donnait un caractère un petit peu angoissant à la recherche. Donc bon, je me suis dit que raconter des recherches comme ça sans en avoir l'air, c'était peut-être une réponse appropriée, quoi. Mm-hmm. Au moins à l'intitulé de ce qu'on me demandait, quoi. Je sais pas, ça va ?
Oui, oui. Non, oui. Benjamin disait les vrais génies ne terminent jamais, il n'y a rien de plus angoissant qu'une œuvre terminée.
Mais parce que ça devient réel, et puis c'est tout le... C'est pas parce que Rudel,
enfin c'est le rebondir là-dessus, hein.
Mais non, mais si c'est que voilà, c'est le réel final qui étrangle la lyrique comme ça, comme dans le
drame lyrique dont on va écouter quelques extraits tout à l'heure et qu'on va écouter en intégralité à la fin de cette émission. Mais en fait, pour ne pas faire de trop de cachotterie. Grégoire, enfin moi je suis Damien Hérault, excusez-moi, on travaille ensemble sur une exposition qui va avoir lieu mi-novembre au Carré d'Art de Lille et qui est une extension de segments, ou une extrapolation plutôt, de segments de ce bouquin.
Une version supplémentaire, quoi. Mm-hmm. Puisqu'il y a le livre, là. Il y a aussi, à l'occasion de cette exposition, du coup, on a eu l'occasion de collaborer, enfin, on nous a proposé une collaboration avec le Conservatoire de Lille, et donc avec le Cœur d'Enfant. Et donc est née une troisième version, si on compte l'exposition comme une version, enfin une espèce de poupée gigogne comme ça, enfin de table russe, je sais pas. Et dans Baby intervient une histoire, une espèce de rocambolesque histoire de sculpture de jambes ratées, dont le modèle après disparaît, parce que le modèle effectivement était Miss Valenciennes au départ, et puis devient Miss France après. On devait recommencer la sculpture ratée, mais elle devient Miss France et elle s'évapore. Uh-huh. Et là, on trouve un grand... rapprochement avec la princesse lointaine de Rudel, puisque le sujet du désir, de l'amour ou de l'œuvre, ou je sais pas, est quelque part, mais on sait pas où. Voilà. Et est arrivée l'idée de travailler autour de Rudel et du coup d'apprendre une des chansons de Rudel à sa princesse lointaine, quand les jours sont longs en mai. Et là, j'ai rencontré Mathilde.
Qui est ici, hein,
qui va arriver après. Bref, qui m'a proposé, parce que je voulais apprendre à chanter cette chanson, et elle m'a dit peut-être que tu aurais besoin d'aide. Et mon mari est chef d'orchestre, il s'appelle Gabriel Mattei, et peut-être qu'il pourrait te donner un coup de main. Donc, je suis allé le voir quelques fois chez eux, et on a travaillé cette chanson. Et finalement, de fil en aiguille, Gabriel m'a accompagné dans des performances où je chante la chanson à l'accordéon, parce qu'il est également accordéoniste. Et ensemble, un petit peu, parce que Rudel, c'était une figure, mais ensemble, on a découvert aussi les arcanes, enfin, ou des mécanismes, et puis de la lyrique médiévale, des troubadours avec des systèmes, etc. Ça nous a intéressés, on a échangé des livres, etc. Et on nous a pris l'envie de devenir des troubadours, c'est-à-dire de continuer à travailler ensemble sur des histoires, les mettre en musique.
D'accord. Ce qui a donné un drame lyrique de 25 minutes avec justement le cœur d'enfant qui est enregistré, dont une partie ou peut-être l'intégralité sera diffusée pendant l'exposition. On va essayer de trouver un système pour montrer ça. Mm-hmm. On va aussi remonter au Conservatoire de Lille
l'hiver
prochain en live. Et puis, on va peut-être vous interpréter un premier extrait en fait, de ce drame lyrique, donc avec toi au chant. chant, avec Gabriel Mattei, donc le compositeur, à l'accordéon, et moi-même au clavier. Mais avant de se jeter sur nos instruments, est-ce que tu peux nous raconter rapidement l'argument de ce morceau qui s'appelle les Bad Chicorée, l'invention des Bad Chicorée?
Alors, les Bad Chicorée...
Ça devient très compliqué. Hein.
Non, c'est pas compliqué, c'est la magie de... Le drame lyrique, comme l'exposition d'ailleurs qui va se passer à Lille, à Espace Le Carré, invité par le service culturel de la ville de Lille, voilà, s'appelle Blanche Endive. Et Blanche Endive, c'est un peu le nom d'invention que j'ai donné à une femme mythique qui aurait inventé les bas en chicorée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mmh. C'est-à-dire qu'à cette époque de pénurie totale, les bas de soie ont disparu, les stocks ont été pillés, etc. Et puis la soie qui est produite est orientée vers d'autres directions, comme l'industrie militaire, etc. Et du coup, j'imagine qu'il y a eu d'autres techniques inventées ailleurs, mais en l'occurrence, dans le nord de la France, comme c'est un territoire qui accueille beaucoup de cultures de chicorée, surtout à l'époque, une femme, puisque un jour, dans sa cuisine, invente des trompe-l'œil de bas en chicorée. Mmh. C'est-à-dire que la chicorée est déjà là pour remplacer le café, qui a disparu. Et en fabriquant une chicorée très concentrée, elle fabrique une espèce de jus comme ça, qui une fois appliqué sur la peau, teinte vraiment la peau d'une manière assez convaincante pour qu'on imagine qu'elle porte des bas, alors qu'elle n'en porte pas. Mmh. Voilà, une espèce de magie de la cuisine. Et puis voilà, puis c'est cette chicorée qui est elle aussi censée être confinée à la cuisine. Une fois qu'elle a été transformée en bas, avec cette femme, qui ne sort plus parce que le bas est normalement une espèce d'accessoire un peu indispensable à l'époque pour sortir, et ben la chicorée, elle aussi, sort de la cuisine. Voilà, donc c'est une espèce de... émancipateur pour Blanche Endive et pour la chicorée.
D'accord. Alors c'est donc cette première partie qui on va prendre quelques secondes pour s'installer, que tu vas nous interpréter avec Gabriel et moi et moi-même au piano. C'est un extrait donc du drame lyrique Blanche Endive qui s'appelle Invention du bas en chicorée.
Assise sur une chaise, Blanche Endive regarde tour à tour ses jambes, un pot de chicorée, le pot de chicorée, ses jambes déshabillées depuis que la guerre sévit. Les bas ont disparu, alors jambes nues. Blanche Endive, Blanche Endive ne sort plus. Aujourd'hui, elle regarde ses jambes, le pot de chicorée qui remplace le café. Disparu lui aussi. Maintenant, regardez bien la transformation. Beaucoup de chicorée dilué dans peu d'eau, le mélange est épais, passé à l'étamine, et là dans la cuisine, Blanche Endive l'applique, des orteils à mi-cuisse, sur la jambe qu'on croirait, alors paré d'un bas, en trompe-l'œil parfait, un bas de chicorée, Endive plus qu'à moitié, elle sort de la cuisine, partager le secret, des jambes habillées, d'un bas de chicorée. La 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 la.
Merci beaucoup. Oui, c'est ça.
Alors maintenant, on va accueillir. On va accueillir. Où est-ce que j'ai mis ma feuille de. Ah, elle est là. On va accueillir Gabriel. N'est-ce pas ? Et Mathilde Sauzet, justement. Mathilde, viens t'asseoir avec nous. J'essaie de faire quelque chose de télévisuel alors qu'on est à la radio, c'est un peu n'importe quoi. Justement, au sujet de ce drame lyrique dont on vient d'entendre un extrait, Blanche Endive. Alors, Gabriel.
Oui, bonsoir.
Bonsoir. Comment ça va ?
Très bien.
pas trop stressé, c'est un peu c'est la première fois qu'on joue tous les trois devant un public.
Devant un public, oui, parce que on a enregistré la pièce à Lille et l'enregistrement s'est pas joué de manière continue devant un public ô combien nombreux. Voilà, et puis les conditions sont pas tout à fait les mêmes et on n'a pas encore vraiment joué cette pièce en concert. Enfin, voilà, donc c'est encore un peu en rodage. Mm-hmm.
Donc, Grégoire t'a contacté, il t'a dit, voilà, j'ai des histoires de Bat Chicoré, j'ai des histoires de Geoffrey Rudel, Troubadour, dont les œuvres musicales ont quasiment toutes disparu.
Oui, de Rudel, donc qui a fini sa vie au XIIe siècle, il doit rester un ou deux manuscrits maximum, et le reste, ce sont des commentaires d'autres troubadours qui relatent sa vie. Donc on a peu de traces, mais c'est quand même l'un des seuls troubadours pour lesquels on a une vraie partition, avec le mode, les notes, et voilà. Et donc il y a des gens spécialistes, dont je ne suis pas, qui se sont occupés de savoir à quoi ça pouvait ressembler, comment ça pouvait sonner, quelles étaient les manières d'accompagner, tout ça, voilà.
Et cette histoire de Camille Cerf et plein d'autres histoires aussi sur les parachutes, etc. Et donc, il te dit, voilà, est-ce que ce serait possible d'écrire quelque chose à partir de ces textes ? Et Grégoire se met donc à écrire des textes que toi, tu vas mettre en musique. Alors, comment t'es venu ces musiques ? Comment est-ce que t'as choisi un style ? Dans quel répertoire tu te places ? Tu sais que tu mets les pieds dans un projet un peu compliqué, avec une histoire d'exposition, une histoire de livres, etc. Mmh. Comment tu t'en sors ?
Alors, je m'en suis sorti comme j'ai pu, mais ce qu'il y a, c'est que quand Grégoire a commencé à me parler de ce projet de manière un peu plus concrète, en fait, il me paraissait important de donner une vision globale à l'ensemble de cette petite forme, qui n'avait pas encore de nom à l'époque. Et donc, on savait que les ressources musicales allaient être des enfants, d'abord l'accordéon, une épinette, donc un instrument un peu rare et qui est monodique, qui a une seule gamme. Enfin, il y avait plusieurs contraintes musicales comme ça qui me faisaient penser que le résultat devait être de toute façon simple à jouer, simple à chanter, de manière à être facilement interprété par des jeunes chanteurs. Et puis par des musiciens qui n'avaient soit pas le temps de travailler, soit qui étaient eux-mêmes des amateurs. Voilà. Donc c'était un peu la définition des moyens qu'on avait. Et malgré la grande carrière de chanteur de Grégoire, elle est quand même encore assez jeune. Donc il fallait qu'on puisse faire quelque chose qui puisse parfaitement coller à sa voix et lui laisser beaucoup de place pour l'interprétation, ce qui était le cas d'ailleurs. Voilà. Et ensuite, quant aux formes, donc Grégoire m'a envoyé des textes et selon la construction de sa narration, j'ai essayé d'extraire des procédés linguistiques, des procédés de sortir un peu ce qui était saillant dans la langue et dans le texte de Grégoire, des allitérations, des répétitions, des absences, des choses comme ça, et essayer de traduire ou de mettre en exergue ce type de procédé par un écho musical ou un écho de construction. Par exemple, lorsque les textes étaient vraiment naturellement prosés, c'était plus facile d'envisager quelque chose qui puisse ressembler à une chanson avec un refrain. Lorsque, au contraire, c'était plus littéraire et plus en prose, et que le rythme de la narration était lent, c'était plus facile d'imaginer quelque chose qui puisse être un ostinato, donc une boucle répétée et légèrement variée, sur lequel le texte pouvait être délié. Et après, le but, c'était d'arriver à créer une dramatisation d'ensemble de ces textes, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose. C'est-à-dire que la fin soit attendue, que la fin résolve ou presque. Mais en tout cas, que de la première note jusqu'à la dernière, on puisse se sentir guidé, et voilà, pour éviter les répétitions, pour mettre en avant les différentes qualités des instruments. Et c'est un peu le but.
Il y a quelque chose qui me plaît énormément, c'est que c'est assez inédit comme style, ou bien en tout cas assez rare aujourd'hui. On a énormément d'emprunts à des formes de chansons qui sont populaires, à des choses qui sont très analogiques, donc qui peuvent être jouées aussi par des amateurs, par des gens qui ne sont pas des grands spécialistes, des paroles en français qui sont compréhensibles tout de suite. On est très loin des clichés de la musique contemporaine, abstraite, acousmatique, digitale, j'en passe des meilleurs, ou bien alors des effets spectraux. Et on a quelque chose où la mise en scène participe complètement de la musique, plutôt comme dans le théâtre ou dans le cabaret, ou en tout cas dans quelque chose qui renvoie au spectacle, ce qui est aussi une tradition musicale dès l'âge baroque, par exemple.
Oui, j'ai toujours écrit par commande, et à part quelques ouvertures et quelques pièces de circonstances, là, j'ai principalement écrit de la musique pour du théâtre, des musiques de scène, ou des choses liées au théâtre musical. Alors on peut appeler ça drame lyrique, théâtre musical, opérette, ce sont des nuances de forme, d'époque, de style, de moyens musicaux. Mais en tout cas, j'ai essayé d'avoir le souci de faire quelque chose de très simple. Alors évidemment, la première pensée, les premiers jets sont toujours plus complexes, on pense à plein de choses à la fois. Et puis le métier fait qu'on apprend à gommer ce qui n'est pas vraiment nécessaire pour laisser plus de place au sous-entendu. Et dans la musique, c'est ce qui me paraît le point le plus important, c'est que les notes laissées sur la partition laissent libre à l'interprète, beaucoup de liberté pour se concentrer sur le texte, pour essayer de voir comment utiliser les moyens musicaux simples et pour les mettre en valeur. C'est un peu comme ça que, en tant qu'interprète, en tant que chef d'orchestre, je dirige les concerts. Et voilà. Et puis, je pense que m'a appris le métier de compositeur de cette manière-là, en gommant le plus possible. Et quand il n'y a presque plus rien à gommer et que ça tient encore debout, c'est que peut-être on s'approche d'une vérité dramatique.
Et c'est aussi un style dramatique un peu oublié dans la chanson française, qui est celui de la chanson réaliste qu'on avait chez Damia, chez Fréhel, où quelque part on laisse le chanteur s'envoler, exagérer, dramatiser, et les musiciens sont là pour le soutenir et pour le suivre. Il y a toujours le chanteur devant avec comme moteur premier le texte, quoi, et la parole.
Ouais, c'est exactement ça. Et puis les formes sont très, très, très courtes, hein, je veux dire, c'est à chaque fois des gestes musicaux qui durent une minute ou deux, enfin maximum. C'est juste pour apporter ce que le texte de Grégoire sous-entend, ou lui trouver une place ou une scène sur laquelle il peut vraiment se développer. Et à aucun moment il y a des grands développements musicaux. C'est pas le propos de cette pièce là. Là vraiment, la pièce se voulait vraiment très simple pour qu'elle puisse être compréhensible et ressentie dès la première écoute. Et j'espère que le public, ce soir présent, pourra parfaitement suivre et ressentir ce que j'essaie de transmettre. Donc la musique est simple. Après, les formes musicales en elles-mêmes, elles sont absolument référencées à l'art dramatique. Il y a des récitatifs, il y a des petites ballades, il y a des cavatines. Ça finit par un petit clin d'œil à Kurt Weill, son opéra de Katsu, qui finit par un ostinato de basse qu'on jouera après, et un grand choral qui est chanté, en tout cas un choral varié, sur un thème qui est repris de Rudel, qu'on va vous interpréter plus tard. Enfin, il y a un lien comme ça avec des formes qui sont, à mon avis, enfin, j'espère, les plus adaptées aux propos. Et voilà, donc tout ça fait à peu près, je pense, 15 minutes de musique et puis 10 minutes de texte, et s'entrelace, se développe, se commente. Voilà. Après, je dois aussi parler de l'orchestration. Donc, ça a été fait pour piano, qui guide principalement pour son aspect percussif et puis sa neutralité un peu de timbre. L'accordéon, parce que j'en joue un petit peu depuis quelques années pour le théâtre et que c'est un instrument assez pratique. Le narrateur, Grégoire. Il y a un chœur d'enfant, évidemment, qui donne une teinte un peu enfantine et vocale, enfin chorale à ce drame. Et finalement, qu'il rend assez accessible aussi au public. Quand les enfants chantent et qu'un accordéon est sur scène, en principe, ça va bien se passer.
Oui.
Assez naïf. Ouais. Et il y a encore deux instruments, je termine avec ça. Il y a l'épinette des Vosges, parce que Grégoire et moi, nous sommes vraiment des spécialistes, on peut dire, de l'épinette des Vosges. Voilà, une rencontre nous a fait découvrir cet instrument il n'y a pas si longtemps que ça. Un coup de foudre. mutuelle, enfin en tout cas vis-à-vis des épinettes des Vosges.
C'est un instrument qui est joué par combien de personnes dans le monde ?
Oh, dans le monde, les deux mains, une main doit suffire à peu près à parler. Enfin non, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui font heureusement dans les Vosges de l'épinette. Et voilà, par contre, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de compositions qui l'utilisent de cette manière-là. Et après il y a un autre instrument électroacoustique qui s'appelle le Desertine, qui a été développé par une designer et un musicien ingénieur qui sont proches de nous et qui répondaient à une commande. J'avais envie de m'initier à la musique électronique sans passer par un ordinateur et avoir encore un geste un peu musical pour produire du son. Et donc on a réfléchi, ils m'ont proposé un truc et ils ont créé le Desertine qui est utilisé dans les transitions de ce projet.
Et qui sont ces créateurs d'instruments ?
Alors la designer s'appelle Lucille Sauzet, mm-hmm. et l'ingénieur musicien.
Il y a beaucoup de Sauzet dans cette histoire.
Il y a beaucoup de Sauzet, oui. Et l'ingénieur musicien aussi par ailleurs s'appelle Hugo Desertine. Et comme Desertine sonnait plutôt bien pour un non-instrument, on a pris le patronyme de ce jeune homme.
Comme le Thérémine.
Exactement, mais le Desertine, c'est tout aussi bien.
D'accord. Et donc, voilà. On accueille Mathilde Sausset, qui va se greffer à toute cette histoire et qui va prendre l'initiative avec tous ses participants d'éditer le livret avec sa maison d'édition Les Commissaires Anonymes, d'éditer le livret de cet opéra. Alors, on l'a entre les mains, mais est-ce qu'on peut le décrire rapidement, ce livret, pour nos auditeurs ?
Alors, ça ressemble à une partition. On avait cette envie d'éditer vraiment une partition, donc avec un format et puis un type de mise en page qui serait emprunté des partitions traditionnelles, qui sont aussi des objets graphiques intéressants, qui sont collectionnés également. Et comme on a un intérêt pour la publication de choses qui sont à la fois textuelles et graphiques, on s'est dit finalement l'écriture musicale est une manière de transcrire un contenu, un langage. Et puis c'est pas le premier livret de partitions qu'on publie, mais c'est la première fois qu'on a un grand format et qui ressemble à une partition traditionnelle, on pourrait dire.
Et c'est rigolo parce que c'est un objet qui a plein de couches. Moi qui lis la musique, je peux lire ce qu'il y a à l'intérieur quand d'autres personnes vont y voir quelque chose de graphique.
Voilà, exactement. Mais c'est ça qui est intéressant. Mais en même temps, sous les partitions, il y a aussi les mots. Oui. Donc en fait, on peut ne pas lire la musique et puis quand même traverser la partition et puis voir une forme de morcellement du texte. Et en fait, du coup, je trouve que c'est une manière d'entrer dans la poésie. Enfin, en fait, le texte est écrit deux fois. Il est écrit sous une forme de prose, donc vraiment la mise en forme de Grégoire et ensuite la mise en forme de Gabriel. Où le texte est décomposé sous les notes, en fait. Et c'est vrai que pour une première pièce qu'on avait écrite, Gabriel et moi, il y a quelques années, c'est vrai que c'est Gabriel qui avait commencé à écrire la musique sur une thématique qu'on avait envisagée à deux. Mais cette manière d'écrire, de placer des syllabes sous les notes, en fait, ça contraint l'écriture et ça, du coup, ça octroie des possibilités nouvelles. Enfin, je sais pas si ça a été tout à fait le processus pour Grégoire aussi, mais en tout cas, y a, quand on sait que ça va être mis en musique, qu'il va y avoir du rythme, etc., il y a un autre rapport quand même à l'écriture. Peut-être, je sais pas, Grégoire, tu...
Non, Gabriel m'avait dit, t'inquiète pas. Mais un petit peu au début, mais après, on est obligé d'abandonner ça assez vite parce que c'est une contrainte qui est trop... ça freine beaucoup, en fait. Et du coup, vaut mieux après s'arranger ensemble sur un texte existant.
Mais on a
Gabriel
vu ça...
a pris des libertés, quelques libertés comme ça.
Des licences.
Ouais.
C'est vrai que quand on a édité le texte, Grégoire avait envie de, par exemple, faire quelques modifications de syllabes et il fallait que les syllabes tombent sur les notes parce qu'une fois que la musique était écrite, il y avait un peu le débat. Grégoire voudrait changer ce mot d'une syllabe en un mot en trois syllabes et Gabriel disait
Grégoire.
Ouais, non.
On a une ligne musicale qui ne nous permet pas de faire ça. Donc c'était un travail un peu nouveau aussi pour nous, mais enfin moi j'ai l'impression que ça sort pas tout à fait de ce qu'on essaie de faire, de ce rapport au langage, de un peu de déconstruction puis de reconstruction, de une manière d'entrer dans les histoires.
Il y a un autre pont que je vois, mais d'un autre point de vue, qui est celui du commissaire d'exposition, parce que je sais que dans l'expo avec Grégoire, on va montrer par exemple des photos dédicacées des acteurs de Santa Barbara. Y a un côté très social et très pop. Et tout à coup, produire une partition comme ça, qui est facile à jouer, c'est quelque part aussi donner la possibilité aux gens qui savent un petit peu jouer du piano, ou un petit peu jouer de l'accordéon, ou un petit peu chanter, de faire quasiment instantanément avec l'écriture, quelques mois après l'écriture, de faire la chose chez eux, de leur permettre de se l'approprier et d'aller quelque part sur leur terrain. Enfin voilà, je dis juste un commentaire.
Ouais, c'est vrai que Blanchandif peut advenir comme ça, surgir de plein de... Peu qu'on ait la partition, peut... D'ailleurs, c'est étrange parce que c'est Mathilde qui m'a dit qu'avec les commissaires anonymes qui étaient à Bruxelles la semaine dernière, à la foire du livre d'art du Wills, et qui a vendu une de ses partitions à un collectionneur inconnu. C'est pour ça que c'est bien d'en parler à la radio. Je ne sais pas s'il écoute, mais peut-être. Mais peut-être tu peux raconter parce que c'est un type
oui,
qui
en fait, c'était un collectionneur de partitions d'artistes, d'artistes en fait. Donc, il est arrivé sur le stand, il a feuilleté, il a vu que c'était des partitions. Enfin, en gros, quand on le feuillete, on voit que c'est quand même plus de 50% des pages qui sont des partitions. Donc, quand on les lit pas, et c'est pas donné à tout le monde de lire la musique, on peut être un peu freiné. Lui, c'était pas son cas. Donc, il l'a pris tout de suite dans les mains. Il a dit, c'est ce que je collectionne. Alors, je lui dis, vous lisez la musique? Il me dit, pas du tout. Mais par contre, je collectionne, depuis que j'ai découvert les partitions de John Cage, je collectionne exclusivement des partitions qui sont faites par des artistes plasticiens. Et j'invite une à deux fois par an des musiciens quelque part pour interpréter mes récentes acquisitions. Donc voilà, on était contents de savoir que Blanchandive allait être un jour interprétée dans un salon bruxellois par des musiciens dont on ne connaît rien.
Eh bien, sur cette question de la partition, je vais essayer de faire un petit jingle avec mon clavier, enfin un bout, et puis on va accueillir encore un personnage de la nébuleuse de Grégoire, qui est Jean-Philippe Convert, s'il veut bien se déplacer par ici, à nous lire un poème donc que moi-même je vais découvrir, qui s'appelle A-E-I-O-U. C'est bien ça, Jean-Philippe? C'est ça. Alors juste, trois notes de piano, le temps qu'ils se mettent, enfin de machin synthétique, là, le temps qu'ils se mettent derrière le micro, et puis on embraye. Merci Gabriel et Mathilde d'ailleurs pour ces explications.
اتلات لفتان افافا بلس ا انت تالان تارا ازا باتكلاغلا كم فد بلا اتال تارا اند ما نا اتالس وال ال خمام بلا وات اساتاد ابانتس اجا افات غمرغا بلا بلا لا كا بلس ا لا كاتات ات باهافاس افارا ستارا ستافازات تشارا اتلا كا بريزنت ان ابراكن ارا افتس ابلاشمانت ا فرامتا غراند اتال Asfta, nawas fashan, rif at sharak plus wat afront. Andazan, an latla, an nama, an apan. A punk a yel wool. An f awkward, samat plus asa tat agla, atat garden, anaf tat atas af vava plus a. A wavar, at svamas. Avan klasakal. Avan laksara. Avan matarata. Antas, rachen. Antas, mamf. Afjana, American Trafalas, ara extra malanamaras. Ats ma plus a tas an such af flatong stalash. And sons watch avaka, avazan, anacha, af nawad af sarataga. Taras as flatag atar, and tatar, af stalash, young girls. Af andrastlang af maslan frankas. Adratla blas haka, masak, and at marnang. A son of Aj Bached, an Yarasava, an Amprasan, aftas at Sfangs, at a excellent an after Traskaranas, an Ratraspartad, an Fancha.
Utulutuftu, VV plus E, une Sutzelun, Tere us E, Pactolov, Cotfable Eutel, Tere, Eure, Eudud, Men Eutels, Fata Eutotamen of Terus, Eustabitunus, of the Plutche, which us Menuremelotrops, remember. ötz sötön öppen zöt ötz öt römerke beblöke römerke beblöke de vözöt de chöre de löke de prösön öt öbröken römerke beblöke öt pensön öf en öl der do plus ös ötz nöme en skröben en jömen en löken lutorung öppen öppunk en jöle völ en öt ökord som öt plus ös öf de engle öf de gördön Eni öftus öte tot bvvpuls ö, öwöver, öts fömös, öven glössökel, öven. En öwöver, öts fömös, öven glössökel, bög de dengjärs frömön öfts öpstet nömbörs bf ernst bf ed luxöre ed mötröte. Öntus jöjön öfst möf öfdjöne, ömbare kontravelös öre extremele nömörös, extremele. E mörö kontravelös, Besette d'un deux, tout veuve plus os, osumus, tout peureux, somme, of, curustrostux. Ostus peureux, somme, of, curustrostux, terrestux. Un etche, un eporte, un surotegue, un surotegue. Veuze, un feutche, a flotung, ot teuf, un stolich, young girls, oh, yurusofu. Un impression, of the sphinx, of the excellent un, of the truscarinus, and a retrospected, and funchu.
Et il est riftin, vivipussi, et sirline, tirissi piclerintil. Plirti, et dirtimini ftirist, et si piscinis, if the plici, which is, many what travelers will remember, is seated. Ipintitihichi, if you remember the leaky, leaky titi shiri, if you retiris the visit, ti shiri, ti leaky, ti inscribin, ti irdir, ti frame, ti fishin, ti with if weekly please with the friend, in indribil sinis, in it is in flick friend, frame it strife, ti ti little swiss pinsin if ti hildir, ti please easy, is nemi, in pink, yili, I will. In equid, it is girdin. If it is e, it is plus vivi plus e. Weaver, its fame is even clusicil. Pintis digis frame minifts ips nebis. Be in here, it is this. American, it's me plus easy. If this. Perit, simi, if this. Kirisat, it is in American, with the ring plus plegi. Which is theory, irisics. In Cindy, which is Vicky, Ivisin, in itchy. If nipit, is eretigi, theory, if fleeting, in iftir, in tetir, in stylish, in yinkils. In irisivi, in impressin, if tis effings, it is excellently out of triskerinis, and retrospected in finchy.
To lo tofton of plus o, and to alone, toros o, pokloko for the otol. Toro oro onde monotols, vato ototomon of toros, otos bosonos, otoplocho, watch os, monotrovlos ol romomblo, os sotod, opantot ojo for romcoblos loco, tot ot buovos, ovoro toros of vozot, toshoro, antoloco proson, onombrocon oro, oftot otoblochmon of tos odo, from to grunt otol, from tot O choco ops loto dozon loto nonumo opokof de gordon tof of onglotos on osso somo. On oftos otos of vovoplos o ovovo os formos o von crossocol. Bodos togos from mon of ops of nobles. Bo on of bof loxoro and of motorotos hochion of the mont of giorno. O mo controvolos oro oxtromolonumoros os momo plus o oftos. Of sons, o morocon votorum, o plocho, toro oro songs, o vozon, o nocho, of no pot of sorotogo, tos of flotong, no fotot otos of stolosh, and young girls, o roslong of most of lonchut, o rotlo of dogoplos, mosok, and of morning oars, and urosovo, on umproson, otos for fongs, o the oxalant of the troscoronos, and oro transported, and foncho.
Une lutte, une vue plus U, une saute à l'une, terre, usu, pétoclable, couple, utils, terre, ure, une, minutils, futu, utatemun, ufterust, us, de, pisenus, ufte, plunchu, witches, menu, sedut, upun, amocoplo, travelos, romamblour, to, fou, ojo, ou, romocoplo, loco plus ou, loco, chorou, outou, Loku, Pozun, Onumokunoro, Oftu, Zoglojmon, Oftu Odu, Kototuls, Oftu, Nowut, Fushun, Wuchu, Chuk, Wutu,
tu flux fun 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 tu strof tu tu lu lu su spun sun uf tu hulu du plu su su uts nomu uns grobun un jomun un lokum un lotohum un upun ukun hudun uts pus tu stonguch bu un hu un tus un mokun uts mo plus u un tus ufu sut un uchu un sut uch uvoku ufusun un uchu uf noput un sotogu Tourousou, flottons, flottons, tourons, tout, tout, ouf, tout, louche, young, ours, tout, plus, besoin de tout, mon, ou, sautons, foutou, on y rousou, vous, on en prosoun, ouf, tout, s'enfonce, ou, tout, xulon, houn, ouf, tout, tout, scoronous, on en retransporte, on funchou.
Merci Jean-Philippe. Donc on vient d'écouter une lecture en direct de A-E-I-O-U. Alors comment tu qualifies cette chose ? Est-ce que c'est un poème, c'est une composition musicale, c'est les deux, c'est une lecture ? Est-ce que c'est interprétable par d'autres personnes, etc. Comment, qu'est-ce que c'est que, une pièce littéraire ?
Est-ce que c'est littéraire ?
Oui, c'est littéraire, évidemment.
Oui, évidemment.
Mais en fait, d'abord, pourquoi, c'est ton avis.
Pourquoi est-ce que j'ai choisi de le dire, ce texte ? Puisque dans son livre, Grégoire parle d'un troubadour. Et évidemment, le troubadour, il s'adresse toujours à la personne qu'il ne pourra jamais atteindre. Et je me suis dit, ça, c'est ce genre de texte, ça pourrait être un texte amoureux qu'on adresse à une personne qui ne peut pas la comprendre. Vous l'aimez tellement qu'en fait, vous l'aimez dans un amour si grand que ça la dépasse. Donc à partir de là, c'est un peu le thème du troubadour, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que c'est ? C'est une glossolalie. Le terme exact, c'est une glossolalie, c'est un texte dans une langue qui n'existe pas. Ça, c'est pas une langue qui n'existe pas, c'est en fait tout simplement une langue cryptique. C'est-à-dire que c'est les premières lignes d'un texte de... d'un romancier anglais dont le nom m'échappe, Daisy Miller par Henry Miller. Et à chaque fois, c'est une substitution de voyelles. Hein. C'est-à-dire, on prend le même texte, sauf que toutes les voyelles sont remplacées par le A, le E, le I, le O et le U.
Tu as pris la version anglaise ou française ?
Anglaise. Anglaise. C'est très important.
D'accord. Eh bien, en fait, je pense qu'on va passer tout de suite à la suite. et la suite alors attendez la suite alors je ne fais pas de jingle clavier complètement débile il y a la chanson de Rudel. Alors on va écouter un extrait de la chanson de Rudel, peut-être Gabriel. Un petit mot sur cette écriture d'un des poèmes très célèbres de Geoffrey Rudel. Donc actualisé pour l'accordéon, mais lu en ancien français, en langue...
En occitan.
En occitan.
En fait, de Rudel, enfin de cette époque-là, ce qu'on sait, c'est que l'accompagnement, polyphonique n'existait pas. C'est-à-dire que imaginez qu'on chante. Plusieurs notes en même temps n'étaient pas dans la conception musicale de l'époque. Et donc, on arrivait simplement à faire des notes tenues, une ou plusieurs, un bourdon. J'ai appris, je trouve ça toujours très drôle, que maintenant on appelle ça un drone, parce que les drones font le bruit des bourdons. Et comme il y a moins d'abeilles, on a remplacé ça par les drones. Donc, il y a des drones, un bourdon musicalement, enfin deux notes qui sont tenues, ou une. Et dessus, est psalmodié sur des modes, c'est-à-dire des organisations de gammes qui sont constantes. Le thème, voilà. Donc l'élément mélodique est en soi assez peu important à l'époque. Enfin, je pense des musicologues de me tuer en disant ça, mais c'est pas ce qui est le plus important. Le plus important pour le troubadour, c'est celui qui trouvait sa mélodie. À chaque fois, il composait un nouveau texte pour la personne qu'il aimait et remplaçait le nom de la personne aimée par un nom de code, comme a dit Grégoire, un signal.
Sénal.
Un Sénal, voilà. Okay. Voilà. Et donc, on a juste, pour terminer, on a juste pris la liberté de jouer, non pas un bourdon, mais de mettre des notes supplémentaires. Et voilà, Grégoire chante en occitan ancien avec un accent
belge.
Du nord de la France. Donc, on s'est dit qu'à partir de ce moment-là, tout était possible. Et donc, on a pris l'accordéon, on a rajouté des notes.
Tout est possible parce qu'il y a aussi ce phénomène comme ça du troubadour qui. C'est pas une musique qui est fixée, c'est-à-dire que comme le rossignol par exemple peut être une espèce de point de départ, une espèce de stimulus comme ça pour que le troubadour ait envie soit d'écrire, soit de chanter cette chanson à cette princesse lointaine ou à Blanchefleur, ça ce sont des
sénales.
Sénales. Les sénales, alors on le dit, mais c'est le sénal, c'est un nom d'invention qui est donné à la dame. Qui est l'endroit et aussi le sujet de la chanson. Et le sénal, ça permet au troubadour plusieurs choses, c'est-à-dire de cacher l'identité de cette dame, d'une part, et en plus, ça lui permet de signer dans le texte comme ça, parce que le sénal ne se partage pas, chaque troubadour a son sénal, et quand on parle de la princesse lointaine dans un texte, on sait qu'il s'agit de Rudel, par exemple. Et puis, ça sert surtout à propulser leur vie, la dame et tout le bazar, dans la lyrique, puisque c'est pas son vrai nom. Donc, c'est un autre nom. Donc, on bascule dans un autre endroit, une autre dimension, chez les... Voilà, dans la lyrique. Et voilà, et aussi comme l'oiseau. Non, c'est que le troubadour chante sa chanson à chaque fois devant un public de qualité. Choisi, potentiellement retransmetteur, comme ça, qui peut reprendre la chanson, ce qui permet aux chansons de voyager. Et puis qu'à chaque fois, il n'y a jamais de forme fixée. C'est-à-dire que c'est comme le rossignol module, et disons, répète un petit peu son chant chaque jour sans jamais le fixer, comme une espèce de répétition perpétuelle. Le troubadour, ça fait la même chose.
D'accord. Alors, le temps que je pose mon micro, que je me mette de l'autre côté de la scène, on écoute une chanson de Rudel interprétée par Gabriel Maté et Grégoire Maté.
Voilà. Alors, on imagine Rudel, il est sur le bateau qui le mène peut-être à Tripoli, qui est un petit peu en perdition. Et il est très malade et il essaie de chanter une dernière fois à la princesse lointaine sur le pont du bateau. Et il n'y a qu'un couplet, du coup, parce que ça pourrait être très long, en fait. Mais c'est juste histoire de... La hankani jorn son langen mai Mes per sto chens dao Zeldelo E cant me suis partit de lae Remembrand un amor de l'ojo. For it alan en brom eclis si que chats ni flores d'Abel pim nam mi va maes ki verja Voilà. Damien revient.
Bon, Gabriel, tu peux rester assis avec nous, hein, parce qu'on va reprendre très vite la suite de la musique, parce que j'ai décidé d'intervertir deux éléments.
Si vous le voulez bien, vu qu'on est sur notre lancée à jouer, on va jouer un extrait de la dernière partie de Blanche Endive, tous les trois. Et ensuite, je vais faire peut-être un petit jingle. Ensuite, on va écouter un morceau du groupe de hip-hop de l'école d'Annecy qui s'appelle Anne.
Anne, mais il m'avait accueilli gentiment. Il m'avait permis de chanter cette chanson de Rudel dans leur cave.
Voilà, donc ils font partie de des collaborateurs de Grégoire. On va écouter ça. Et ensuite, avec ou sans transition, je ne sais pas encore exactement comment ça va se passer tout à l'heure. On va écouter l'intégralité du drame lyrique Blanche Endive. Alors, l'extrait que nous allons vous interpréter, c'est le début d'un morceau qui s'appelle Final. Voilà.
Ouais.
Et voilà. Hein. Alors attendez, je règle mon machin.
En tout cas, c'est juste après qu'intervienne une barmette polonaise pour m'expliquer une technique qui me permet d'arrêter de chercher pendant des années comment fabriquer cette jambe que je ne trouve plus. Voilà.
D'accord.
Donc elle me dit qu'il faut aller sur une plage dans du sable mouillé.
D'accord. Et voilà, je suis prêt.
Comme Rudel au Liban et sa princesse lointaine, faudra-t-il se rendre sur la plage de Calais pour retrouver la jambe dans du sable mouillé? Et si elle était là, Camille Serre, toute entière et solide ce jour-là, sur la plage de Calais, avec des téléphones, on prendrait rendez-vous. Moulage recommencé, sculpture réussie, se dresserait bien sèche sur son socle classique, puis Camille repartit, la jambe sur les bras, Motte ne mourrait pas. Mais quoi faire maintenant?
Pour le reste, il y a un cœur d'enfant, on peut pas le faire ici.
Ménopause, c'est contre cœur que je me balance, et moi si tu oses. Tu as l'âge de ma mère, mais moi j'aime les cougars. L'âge n'a pas d'importance, on est dans le noir. J'espère que ce son n'est pas fait que pour cracher ma morosité, ma mélancolie ou même ma fragilité de petit blanc agité. Donc il faut que j'écrive et continuer à rapper fort. Et j'espère que je n'ai pas abandonné. Je veux manger des glaces sur les hauts d'une montagne, boire l'eau de toutes les fontaines, continuer à traîner dans les ruisseaux et boire tout le sirop.
Je veux Obama pour ma bar mitzvah avec mes deux OPA. Les mamans, je les consomme en doggy style. Je vais tailler ton anus en forme de cœur pour que tu chies comme un lover. Tu lèches un buisson, tu ken un buisson. Ma bite surfe sur une vague de sang. Tu bois mon sperme qui est brassé dans une brasserie. Pas tout son
nom. Ménopause, c'est contre ton cœur que je balance, et moi si tu oses. Tu as l'âge de ma mère, mais moi j'aime les cougars. Lève de pas d'importance, on est dans le noir. Ménopause, c'est contre ton cœur que je balance, et moi si tu oses. Tu as l'âge de ma mère, mais moi j'aime les cougars. Lève de pas d'importance, on est dans le noir.
Aussitôt, 21h c'est trop tôt. T-shirt en coton, Thomas Champion, retroussé dans le pantalon. Serviette hygiénique, planqué dans le caleçon, planqué dans le caleçon. Ouais,
Ouais, je suis juste un mec chelou, un peu fou, à l'allure de mec rebou. Bout de ficelle, celle de cheval, tu te rappelles de cette chanson? Apprise en CP, apprise quand t'es né. Pauvre con, t'es pas invité, t'es pas invité. Tant chez toi, d'enfermé dans ton placard, tout seul dans le noir. Tes parents sont invités, contrairement à toi. Ils ont ramené de la tease, y'a du choix, vanille et chocolat, chocolat. Strabisme et Posca, deux choses différentes à la fois. Je m'égare comme Polak dans le noir, dans placard. Ferme ta gueule et va t'asseoir, t'arroser, c'est mon choix. Je te sers, je te bois, je te vois. Et de noix violette, c'est à toi.
Blue jeans, m'as pardonné, tumultueuse. S'extirper, régner, les appétits, les couloirs s'occupent de balayer. Les courbes s'empoisonnent, mon train bouge plus. Je suis là, jeté dans une rame. À contresens, les temps se faisaient interminables. Le chien me fixe en aboyant. Je suis sur le point de m'en aller. L'homme en face a les cheveux gras appuyés sur un col polo rouge trop grand. Pour ses épaules potelées, les sièges sont doux, les fenêtres noires. J'observe les mouvements dans leurs reflets. Quand j'écris dans le train, quand j'écris pour une adresse, je pense aux correspondances.
J'kick des trucs sales, j'suis posé dans mon check. J'en ai putain rien à foutre, j'ai l'apparence d'une loutre. Pourtant tous autour de moi, ils rêvent que je les complimente. J'ai le charisme d'un roi et la détente de ta tante. J'ai la voix de la petite sirène de ta piscine de banlieue. Tes phrases je les fais miennes, oui elles me vont beaucoup mieux. Mon rap est aquatique, il t'amène en profondeur. Tu te croyais poétique, mais j'ai la de ta servir. Sali sous les seuls, j'taffe en palais, j'tape des brunchs dans ma faille. J'me sens high, j'ai des problèmes avec la maille. Dans ma city j'pète un câble. Que des drames, que des erreurs dans la team, que des kickers, fais les bails. Bois ton sirop, mets-toi tard. Fais ce qui siroge, mets ma cape. Comme un héros, il est tard. Bande à part, dans ma tête, c'est la démo de ma life. Fais gaffe, mes rôles sont ma cape. Sega rétro, méga drive. J'ai plus de rime, gros, c'est pas grave. J'ai plus de rime, gros, c'est pas grave.
Mon poche, pourtant, jamais été si distant. Voir 13 auteurs par an, juste une belle perte de temps. Ma tête va exploser, mais j'attends ça depuis 20 ans. L'album arrive en plus, on va tous les mettre ensemble. Et ma peau va s'épuiser quand le château sera monté. Par les efforts, les sacrifices plongés dans le vide, sous le champ de sa glisse. Dans les dédales, des tâches, j'étale les tristes clichés patriarcales, biparentales, confort fatal au visage mal et c'est blanc.
Encore un truc chelou qui se passe dans ma tête. Au milieu de la fête, il n'y a plus de paillettes. Assise par terre, je contemple la marée humaine. Les vers se vident et les corps se désaniment. L'atmosphère s'assombrit. Je sens mon corps glisser, mon âme s'échapper. Au travers de ma rétine, des formes longilignes courent sur le mur devant moi, noir comme la nuit. Il n'y a plus d'espoir de sortie. Caché sous les draps, je me pince fort le bras, espérant faire un mauvais rêve. Je transpire et mon cœur s'accélère. Les gens ne sont plus là, je suis seul face à la bête. Ces putains de silhouettes devant moi, c'est triste à dire, mais c'est sûrement la fin de la fête. La fin de la fête.
À
Alors, avant de écouter l'intégralité de du drame lyrique Blanche-Endive, peut-être ce serait intéressant d'avoir une petite idée de du découpage général de cette pièce musicale avec ses différentes séquences, pour comprendre un petit peu la dramatisation ou l'histoire globale qui est dans ce drame lyrique et aussi dans ce livret édité par Commissaire Anonyme.
Le découpage des quatre,
oui.
Ce qu'on appelle, il est marqué sur la quatrième de couverture comme ça. D'abord, l'invention des barres en chicorée.
Oui.
Ça, on a vu la chanson. Et alors, cet acte, si on peut dire un acte, se limite à cette chanson-là. Ensuite, il y a Geoffrey Rudel, qui est une narration comme ça de l'histoire de Geoffrey Rudel, hein, du moment où il entend parler de la princesse lointaine au moment où, on peut pas dévoiler la fin, mais où. À la fin, au moment où le réel, parce que c'est un peu ça qui est en jeu aussi, où le réel assassine la poésie. Hein.
C'est rien que ça.
Bah oui, tout simplement. Et puis après, il y a les bas devenus parachutes. Hein, c'est une autre histoire de magie. C'est la seule histoire qui n'est pas dans Baby, d'ailleurs, mais qui découle des bas en chicorée, parce que c'est pendant la même période. C'est l'époque où, 5 ans après avoir inventé le nylon aux États-Unis, on fait des bas nylon et ça se vend très bien. Et puis après, les États-Unis entrent en guerre et les bas nylon, comme par magie, deviennent des parachutes. Voilà. Donc les bas des femmes américaines vont se transformer en parachutes. C'est la troisième partie. Et puis la dernière, c'est la sculpture ratée avec le lien que fait Camille Serre entre Blanche-Endive, puisqu'elle est au départ. Volontaire pour prêter sa jambe en modèle d'une sculpture qui serait un hommage à Blanche-Endive, qui serait une sculpture d'une jambe de plâtre bêtement trempée dans un bain de chicorée, comme ça, pour faire une espèce d'hommage. Donc, Camissaire est là pour prêter sa jambe pour modèle. Donc, la jambe de Camissaire devient la jambe de Blanche-Endive. Et puis, après l'élection Miss France de Camille Cerf, comme la sculpture est ratée alors qu'elle était d'accord pour la recommencer, elle disparaît complètement, elle s'évapore et elle devient plutôt une princesse lointaine. Donc le lien est fait entre ces deux espèces de femmes mythiques comme ça, par une femme bien réelle qui est Camille Cerf, mais qui une espèce de lien. Et la troisième.
Tout à fait, qui est un peu la princesse lointaine de Grégoire Motte.
Oui, si on peut dire, puisque exactement comme Odierne de Tripoli. Connaissait les chansons de Rudel de Tripoli, même s'il n'y avait jamais mis les pieds, parce que les chansons voyagent pendant la deuxième croisade, etc. Les jongleurs reprennent les chansons des troubadours et voyagent en Orient aussi. Et donc, elle connaît hein, l'existence de Rudel, et c'est pour ça qu'elle vient l'accueillir sur la plage, hein, parce qu'elle sait qu'il chante pour elle. Mm-hmm. Parce que tout. Et donc, voilà. Et donc, il n'est pas du tout impossible, comme on fait des émissions de radio qui sont diffusées sur Internet et avec des moyens aujourd'hui que. On ne sait jamais hein, que Camille Serre découvre que depuis que j'ai raté le moulage de sa jambe, cette espèce de ratage, une espèce de thème comme ça sur lequel je travaille depuis plusieurs années, qu'elle vienne me proposer. C'est un petit peu ce qui cause le désarroi dans le final de Blanche-Endive. Hein. C'est-à-dire que si un jour elle arrivait, qu'elle me proposait de recommencer, que finalement on finalise et qu'on fasse une vraie sculpture réussie. Parce que c'est ça le problème, les sculptures réussies. C'est ça aussi, hein, tout le truc du livre et tout ça. C'est qu'à un moment, il y a des sculpteurs qui réussissent leur sculpture. Et puis voilà, quoi. Après, je sais pas, il faut être costaud après. Voilà.
Un dernier mot, Gabriel ?
Oui, on peut juste rajouter que dans ce qu'on va écouter, c'est Grégoire qui fait le narrateur. Oui. Donc, qui narre son histoire, qui chante, et c'est vraiment le fil conducteur de toute la pièce. La narration est un fil continu par le narrateur, et les autres intervenants vont venir commenter ou interrompre ce narrateur.
D'accord. Alors, juste pour le générique, parce qu'on s'apprête à écouter une pièce qui dure quelques 25 minutes. Donc, Blanche-Endive, composée par Gabriel Mattei, avec en narrateur et chanteur Grégoire Motte, mais aussi Éléonore, non ?
Éléonore
Saint-Agnan.
Qui fait la barmette polonaise.
Voilà. Au clavier, votre serviteur Damien Hérault. À différents instruments, Grégoire et Gabriel vont jouer aussi donc de l'épinette des Vosges. On a un petit peu de dessertine. Gabriel à l'accordéon et les chœurs des élèves de première, deuxième et troisième année des écoles de musique de Vasem, de Lille-Centre et de Saint-Maurice-Pelvoisin, donc qui sont à Lille, ouais. Dirigés par Mélodie Delannoy. Et pour finir, l'ensemble est mixé par... enregistré et mixé
Antoine Pell.
Par Antoine Pell. Voilà. Donc je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt sur, sur Du.
Assise sur une chaise, blanche endive regarde tour à tour ses jambes, le pot de chicorée, le pot de chicorée, ses jambes déshabillées depuis que la guerre sévit. Paru. Alors jambes nues, blanche endive, blanche endive, ne sort plus. Aujourd'hui elle regarde ses jambes, le pot de chicorée qui remplace le café. Disparu lui aussi. Maintenant, regardez bien la transformation. Beaucoup de chicorée dilué dans peu d'eau. Le mélange est épais, passé à l'étamine. Et là dans la cuisine, blanche endive l'applique. Des orteils à mi-cuisse sur la jambe qu'on croirait. Alors barré d'un bas, en trompe-l'œil parfait. Un bas de chicorée, endive plus qu'à moitié. Elle sort de la cuisine, partager le secret. Des jambes habillées d'un bas de chicorée.
La 1663, sur le port de Bordeaux, Geoffrey Rudel, comte de Blaye, écoute cinq voyageurs de retour d'Antioche. Il parle d'une femme qui vit au bout du monde, dont les charmes, la finesse, l'esprit, les cheveux n'ont d'égal nulle part. Elle s'appelle Audierne, comtesse de Tripoli. À entendre seulement les propos des pèlerins, sans l'avoir jamais vue, Rudel en fait sa dame. À compter de ce jour, troubadour, Rudel emploie toute sa vie à composer des chants à celle qu'il nomme sa princesse lointaine. Ainsi, il chante la dame et il chante la distance. S'écoulent les années, au soir de chaque jour chante le rossignol et Rudel avec lui module sa chanson.
Thank you.
Mais un midi d'été, fatigué brusquement de célébrer l'absence, Rudel prend la mer pour gagner l'Orient et aller rencontrer, comment est-ce possible, la princesse lointaine. Le voyage est terrible. La distance résiste. Le bateau peine à trouver la côte libanaise. Ainsi des semaines. Tous les mâts sont brisés. L'équipage meurt de faim. Rudel est inconscient. Il faut frôler l'abîme pour que, levé d'un jour, la distance se donne, que le bateau accoste au port de Tripoli, qu'on débarque Rudel, mort déjà aux trois quarts. La princesse, en personne, est venue l'accueillir. Elle connaît ses chansons. Elle s'y substitue. C'est l'issue du voyage. Elle étreint le poète avec ses deux vrais bras. Elle embrasse son front avec sa vraie bouche. Son haleine rend à Rudel la vue, l'ouïe, les cheveux, les couleurs. Ah, que les joues. Et ses cheveux sont blonds en mai. Le voici qu'il belle. Et ma princesse est là. Et qu'il rit aux éclats. Mais la joie des amants ne dure qu'un instant. Car au même moment, dans un autre décor, un endroit qui ressemble peut-être à un nuage, peut-être à une cave, loin au-dessus ou alors en dessous des deux corps réunis sur la plage, alors qu'Odierne détrône la princesse lointaine, le réel, infâme, légitime, le réel odorant étrangle la lyrique. Il la dissout comme une fleur dans du vin. La lyrique succombe. Mais voilà que soudain, ultime surgissement, avant de disparaître, la lyrique attrape le poète par les cheveux et l'entraîne avec elle. 3 secondes s'écoulent, Rudel meurt sur la plage. Et Odierne, le jour même, se retire au couvent. Amérique du Nord, 1935. Dans l'usine Dupont, Wallace synthétise une nouvelle fibre, le PA66. Et puis 2 ans plus tard, dans une chambre d'hôtel près de Philadelphie, Wallace mélange du cyanure dans son jus de citron. Pour en faire le commerce, il faut trouver un nom au PA66. Les collègues de Wallace baptisent l'invention avec la première lettre du prénom de leur femme. Nancy, Yvonne, Luella, Olivia et Nina. Ça s'appellera Nylon. Pas de H pour Hélène, la veuve de Wallace. 5 ans plus tard, avec le nylon, on fabrique des bas. Les bas nylon sont plus fins, plus légers, plus solides, moins chers que les bas de rayon et que les bas de soie. illico, 64 millions d'Américaines s'achètent des bas nylon. Le soleil de décembre, comme à son habitude, inonde de douceur la Californie. C'est à ce moment-là que surgissent des avions japonais, jaloux, qui vrombissent, mitraillent et qui larguent des bombes sur la Californie et sur les bas nylon. Aussitôt apparaît, génie sorti d'une lampe, Oncle Sam, peint sur des pancartes au-dessus de grands bacs. Avec son doigt en l'air, il se met à parler.
Merveille, nymphéa, sœur, concitoyenne, bataille, boucherie, lutte, feu, c'est la guerre mondiale.
Le spectacle réjouit quelques avions japonais qui traînent encore cachés derrière les rares nuages du ciel californien. Courroucé à l'extrême, Oncle Sam jure de les châtier un jour de la pire des manières.
Now you lost, old Nippons!
Ce que se demandent surtout les avions japonais en faisant des loopings, c'est ce que diable va bien pouvoir faire le vieux barbu avec tous ses bas nylon. Observez maintenant comme l'Amérique est un pays magique. Aussi magique peut-être que la cuisine de Blanche Endive. Sam expédie, par millions, bien séparés des jambes de ses concitoyennes, les pères de bas nylon dans l'usine Dupont. Là, les maris de Nancy, de Nina, d'Olivia, sur des becs benzène et dans de gros ballons, vont les faire chauffer, les faire fondre, pour les transformer en une pâte gluante. En y trempant un doigt et en l'en retirant, on peut voir s'étirer une nouvelle fibre, longue, élastique et fine, dont s'empare Oncle Sam. Et comme une araignée, Oncle Sam tricote avec les anciens bas des femmes américaines les parachutes qui bientôt tomberont sur les plages normandes. Printemps 2014, à Fresnes-sur-Escaut, ancienne ville minière du nord de la France, on invite Grégoire Motte pour une exposition dans la nouvelle salle culturelle polyvalente. De retour de Fresnes après une réunion, dans un train qui traverse tout le Valenciennois, Motte croise la ville d'Orchy et l'usine Leroux. Plus longue usine de chicorée du monde, longue comme une longue jambe, étendue près des rails. L'odeur qui s'en échappe entre par les fenêtres et apporte avec elle l'image de Blanche Endive. Il faut rendre un hommage au bas de Blanche Endive, pâle jambe de plâtre teinté. Chicorée se dressera bientôt sur un socle classique. Un beau jour de juin, Camille Serre, élue reine de beauté de l'Escaut à Calais, prête sa jambe bronzée pour modèle de l'ouvrage. Bérénice et Grégoire appliquent sur sa jambe du polymère rose. La mère de Camille est assise sur une chaise, elle évente sa fille. Il fait une chaleur à assécher l'Escaut. Le travail est si long, l'atmosphère est si lourde que Camille, debout déjà depuis 2 heures, soudain devenue pâle, plus encore qu'une endive, s'écroule.
Te souviens-tu, Camille, lorsque tu es tombée sur le cœur Lachaise,
Camille est réanimée, il faut recommencer. Mais l'ouvrage est ardu et le temps est compté. Une fois terminé, le moule est mal stocké. La gangue de plâtre, garante de la forme, s'évase. 5 semaines plus tard, le tirage est terrible. Le plâtre fuit de toutes parts. Il faut boucher les trous avec une pâte spéciale.
Une fois démoulée, l'épreuve est effroyable. Une cicatrice atroce court devant et derrière tout le long de la jambe, n'épargnant que la plante. Il ne reste à Motte que le moule de polymère rose, empreinte fidèle et molle de la jambe de Camille. Mais sa forme est perdue avec l'enveloppe de plâtre déformée. Résultat, dans la salle culturelle de Fresnes-sur-Escaut, sur le socle classique, à la place de la jambe au bas de chicorée, trônent 2 citrons jaunes et 10 kilos de pâtes. Le service culturel ne cache pas son courroux. Sur de hautes sandales blanches, dans sa belle robe grise, Camille, magnanime, propose qu'un jour prochain, on recommence tout. Tout semble s'arranger. Mais 2 mois écoulés, Miss Valenciennois, un soir, devient Miss France. Au zénith d'Orléans, sitôt que sur sa tête, on pose à la place des bois le précieux diadème, avec ses 2 jambes, elle rejoint l'éther. Blanche endive, Camille Serre, maintenant princesse lointaine. Motte, sans elle, essaie de retrouver la forme de la jambe. 700 kilos de plâtre blanchissent ses cheveux et en guise de jambe ne produisent que monstres. S'écoulent ainsi 3 ans. Camille travaille maintenant à la télévision. Elle y présente le bêtisier. Peau de banane, chute de cheval et sculpture ratée. Tout cela pourrait durer encore des dizaines d'années. Un soir, pourtant, une barmaid polonaise enseigne à Motte la technique du sable mouillé.
Comme Rudel au Liban et sa princesse lointaine, faudra-t-il se rendre sur la plage de Calais pour retrouver la jambe dans du sable mouillé? Elle était là, Camille Serre, toute entière et solide ce jour-là, sur la plage de Calais, avec des téléphones, on prendrait rendez-vous. Moulage recommencé, sculpture réussie, se dressera bien sèche sur son socle classique, puis Camille repartit, la jambe sur les bras, Motte ne mourrait pas. Mais quoi faire?